Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi, le bien-être. Le bien-vivre, qu'est-ce que c'est ? Savoir écouter ses ressentis, ses harmonies personnelles, n'est pas toujours évident. De l'harmonie, parlons-en justement. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Lebon pour nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Alors Stéphanie est professeure de chant et de musique, mais également elle propose des éveils musicaux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà pour commencer ?
Oui, je suis Stéphanie Lebon. Il faut spécifier que je suis d'origine belge flamande, donc là, le français c'est pas ma langue maternelle. Vous allez bien entendre, vous allez découvrir un petit accent. Je me suis installée dans le coin il y a 6 ans avec mon mari et mon fils de 6 ans. Et depuis, donc en France, je donne des cours de musique, des éveils musicaux, des spectacles. Voilà, c'est un peu largement dit ce que je fais. Le nom de mon firme, si vous voulez, c'est Le Bonheur Musical. C'est comme ça que vous allez me retrouver sur Facebook aussi. Je donne des cours de musique. Principalement, ça se passe chez moi parce que j'ai une grande grange remplie d'instruments. Je suis d'ailleurs une grande collectionneuse d'instruments. Et voilà, et donc les gens, ils apprécient beaucoup venir chez moi. Et là, je donne des cours de piano, de guitare, de chant et donc d'éveils musicaux pour les tout petits.
Donc pour donner des cours musicaux, des éveils musicaux ou même des cours de chant, il y a déjà un parcours chez toi derrière. Quel est justement ce parcours ? Est-ce que tu peux également nous le proposer ?
Pour commencer, moi quand j'étais petite, ma mère, qu'elle a bien vu, on avait un piano chez moi, elle avait bien vu que j'étais bien intéressée dans le piano, donc elle m'a proposé des... J'ai passé par l'académie, comme c'était comme ça dans le temps, il fallait passer par la théorie d'abord, 2 années au moins pour avoir le droit de toucher l'instrument. Mais elle voyait que j'étais vraiment très intéressée à toucher l'instrument, donc elle m'a rencontrer un prof privé aussi, particulier. En fait, ce que je fais aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a vraiment guidée un peu vers l'amour pour la musique. C'était pas l'académie. Là, j'ai appris la langue, les lettres, le vocabulaire, si vous voulez, mais j'ai pas appris à aimer la musique. C'est surtout lui qui l'avait fait. Donc, ça, c'était le début, si vous voulez, de l'enthousiasme qui est né en moi. J'avais compris que la musique, elle allait m'accompagner dans ma vie, que c'était un truc très important. Et puis après, et le collège, le lycée, c'est ça parce que je me trompe toujours avec le lycée plutôt, hein, voilà. À 18 ans, voilà. J'ai fait ma formation. Donc en Belgique, ça s'appelle Jazz Studio. Ah, c'est comme le conservatoire, là où on a le choix entre le classique et le jazz. Moi, j'ai choisi le jazz parce que ça me permettait plutôt de m'exprimer, d'improviser, donc d'être un peu plus libre dans la musique. Et c'est ce qui m'attirait beaucoup, que de l'autre côté, sans vouloir sous-estimer le classique, parce que j'ai toujours adoré le classique aussi, mais une formation classique était plutôt rigide, elle était très théorétisée aussi. Voilà, donc moi dans le jazz, j'ai vraiment trouvé mon chemin quand j'avais donc vers 19 ans, 20 ans, j'ai commencé ma formation. J'ai fait piano pendant 5 ans à Jazz Studio à Anvers en Belgique. Et donc c'était le début de plein de groupes dans lesquels j'ai joué en Flandre, en Wallonie. Et voilà, et j'ai aussi commencé à faire, parce que ce qu'on te conseille quand on fait des formations, c'est que tu donnes des cours de musique. C'est comme ça que je me suis plongée un peu dedans. Et j'ai surtout fait ça avec toutes mes cousins, cousines, tous mes amis autour de moi. Donc il y avait pas mal d'enfants aussi. J'ai trouvé que j'avais une certaine affection pour les enfants. Que j'avais ça m'a beaucoup enthousiasmé de travailler avec des enfants. Donc j'ai fait des petites formations d'éveil musicaux, et avec l'expérience, disons que le jour que je suis venue en France, ça m'a permis de construire un job dans le coin.
Et justement, en fait, qu'est-ce que c'est un éveil musical ? En quoi ça consiste ?
Donc l'éveil musical, c'est... Comme moi je le fais, je le fais dans le coin, donc pour spécifier, donc je travaille pour les RAM, donc les relais assistantes maternelles. qui ont différents lieux dans le coin où eux, ils me payent, mais les parents et les nounous, les assistantes maternelles, ils peuvent venir avec les enfants. Pour eux, c'est gratuit. Donc, et là, c'est pour le groupe d'âge entre 0 et 4 ans. Donc l'éveil musical en général, c'est s'ouvrir à la musique, c'est une rencontre avec la musique, c'est-à-dire non seulement la mélodie, mais le rythme, le corps, l'expression en soi à travers la musique. Hein, donc ça peut également être pour les enfants plus âgés, mais là je me concentre vraiment sur des petits-enfants. Il y a pas mal de bébés aussi qui sont dans le groupe. Et donc voilà, puisque j'avais un petit enfant moi-même, donc je suis rentrée dans les rames, moi, avec mon fils, et j'ai vu qu'il y avait, ils avaient besoin de quelqu'un pour organiser les éveils musicaux, et je me suis proposée, et depuis ce moment, ça a pris un vol, parce qu'il y a d'autres rames qui m'ont demandé, donc il y a quand même une manque dans le coin, clairement une manque de profs de musique et d'éveils musicaux pour les enfants. Il y a les académies, mais ils sont au niveau du piano et guitare, ils sont tout de suite remplis, donc c'est très difficile à y trouver une place, et je pense que c'est ça ma chance dans le coin que, hein, donc pour la trompette et le violon, c'est pas quand tu t'inscris, t'as tout de suite la place, mais pour le piano et la guitare, comme c'est des instruments assez populaires, c'est toujours rempli. Donc ça a été la recette pour la popularité de mes cours, je pense, ensemble avec la belle salle que j'ai. Donc
peut-être aussi décrire sous quelle forme en fait tu présentes tes éveils musicaux. Peut-être qu'il y a une structure, une démarche particulière, des instruments que tu vas apporter ou de quelle manière tu procèdes.
Oui. Alors, donc, on commence toujours avec des chansons de gestes pour réveiller un peu le corps, mais aussi parce qu'on est vraiment dans des tout petits enfants, donc il faut pas trop compliquer. C'est déjà frapper dans les mains, frapper ou taper avec les pieds, danser un tout petit peu, bouger les fesses. après, il y a le chant, bien sûr. Hein, donc, on commence avec des chansons de gestes et ça les réveille un tout petit peu. Ça commence très doucement. Puis après, je l'ai fait la surprise d'une boîte à instruments. Donc, c'est une grosse boîte que j'ai avec plein de petits instruments qu'ils peuvent manipuler, qui sont bien sûr adaptés à leur âge aussi, parce que bon, c'est tout en bois, ou de toute façon avec plein de couleurs, il s'agit beaucoup des petits instruments de percussion, des fois des petites flûtes pour souffler, ou des trucs comme ça. Dès qu'ils ont manipulé, donc on découvre un petit peu ensemble, je fais le tour, j'expérimente un petit peu avec les enfants, je me mets de nouveau centralement dans le groupe, et je prends l'instrument que, à ce jour-là, je vais présenter. Donc ça peut être la guitare, l'accordéon, ça peut être des grosses percussions comme des congas ou des djembés, ça peut être l'ukulélé, qu'ils adorent aussi, hein, comme une petite guitare, hein. Mais aussi la trompette ou le balophone, ou des cloches, ça varie beaucoup.
Quel est l'instrument qui a le plus de succès?
Bon, je pense, c'est très difficile à dire, parce que, en fait, de plus que tu montres, de plus qu'ils deviennent enthousiastes. Je m'imagine que quand tu reviens à chaque fois avec le même instrument, c'est surtout le fait que ça change beaucoup, je pense, que ça attire leur attention aussi. Mais à mon avis, c'est vrai que les guitares et les ukulélés, comme c'est des instruments très doux, avec beaucoup de vibrations, si vous voulez. La percussion, c'est beaucoup plus fort. Donc pour les tout-petits, il faut déjà aborder doucement. Hein, on ne peut pas commencer à taper dessus parce que ça les effraie. Donc les guitares et tout ce qui a des cordes, ça, ils aiment bien.
D'accord. Tu parles justement de douceur ou de percussion par rapport à la réception des enfants. Est-ce qu'il y a des instruments qui sont conseillés et d'autres un peu moins en fonction des âges?
C'est-à-dire que oui, ça dépend un peu de la façon. Tu peux en fait présenter chaque instrument. mais je ne vais pas commencer une sérénade sur trompette tout de suite, parce que ça pète, ça peut vraiment faire péter les oreilles aussi. On travaille quand même avec aussi des bébés, des tout petits, donc il faut aborder ça doucement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas présenter la trompette, qu'on ne peut pas enlever l'embouchure pour qu'ils essayent un peu de faire un son dedans. Les percussions, c'est pareil, donc on aborde doucement et dès qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est, est-ce que je peux toucher depuis du moment qu'ils ont plus peur de l'instrument, parce que ça aussi, ça peut arriver, hein, que tu montres un grand djembé, tu tapes dessus, mais ça les effraie. Donc, on n'aborde pas comme ça, on aborde doucement, on les laisse toucher, on les laisse découvrir un tout petit peu eux. Je les donne aussi des petits djembés pour eux, que eux aussi, ils ont le droit de jouer avec moi. Et puis, comme ça, on peut augmenter le son, l'intensité, la dynamique, si tu veux. Donc, dès que les enfants ils se sentent confortables avec l'instrument, dès qu'ils font confiance, alors là, tu peux aller un peu plus fort. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi avec les enfants que tu as devant toi. Ça dépend du groupe, est-ce qu'il est large ou pas. Des fois, on n'a que 5 enfants, des fois, il y en a 30. Donc, ça dépend aussi de ça.
Et concrètement, la durée d'une séance d'éveil musical, ça se trouve sur combien de temps?
C'est entre 30 et 40 minutes maximum. Mais j'y vais, j'arrive, on prend 15 minutes, je me mélange un peu entre les enfants. Surtout quand il y a des nouveaux enfants qui me voient, qui me regardent, m'observent un petit peu. Et puis on commence, ça prend 30 minutes, 40 minutes et on fini doucement, je reste encore un tout petit peu. Ça fait une heure en total.
D'accord. Et en dehors des rames, est-ce qu'il y a d'autres lieux qui t'accueillent pour l'éveil musical ou pas?
Non, c'est surtout les rames qui m'invitent et j'organise aussi des éveils musicaux chez moi. Par contre, il faut bien spécifier qu'avec le Covid, c'est bien évident que tout ça a été un peu cassé cette année. Ah, donc je parle vraiment. Donc cette année, j'ai pas fait beaucoup de spectacles, juste à la fin, un tout petit peu. Mais avant, oui, il y avait quand même une dizaine d'éveils musicaux par mois, et aussi des éveils musicaux chez moi.
D'accord.
Oui.
Et justement, par rapport à l'éveil musical, on parlait, quand on a préparé cette émission, bien sûr, où on a un petit peu abordé les différents sujets. Parler de l'importance de l'audition, de l'ouïe et du développement justement au niveau cerveau, de toute cette importance que cet éveil musical, ces apprentissages divers des différentes sonorités. Et est-ce que tu peux justement le préciser, toi, avec ton regard en tant qu'enseignante finalement?
Oui. Donc, c'est les éveils musicaux, mais c'est aussi les cours en général. Donc la façon comme moi, je vois la musique, comme moi, je l'ai vécu aussi comme enfant qui a passé un peu par l'académie, les cours en privé, l'école, vraiment la formation de musique. J'ai vu pas mal de différentes profs dans ma vie et j'ai lu pas mal de différentes façons comment on peut aborder la musique. Hein. Donc, une des façons qui m'intéresse beaucoup, c'est la méthode Suzuki, qui vient de Shinichi Suzuki. Donc, c'était un prof de musique de violon, en particulier en Japon. Et donc, il avait découvert que les enfants, à partir de 3 ans, ils arrivent à parler le japonais.
C'est pas grave.
Ils arrivent à parler le japonais juste en écoutant leurs parents, leur entourage. Donc, il s'est dit, mais en fait, le japonais, c'est une langue assez compliquée. La plupart des adultes, ils n'arriveront pas à le faire aussi vite. Ils n'arriveront pas à l'assimiler comme les petits le font. Donc, il y a quand même un mystère derrière, c'est-à-dire qu'on peut, dès qu'il y a certains ingrédients, comme l'attentivité des parents ou des personnes concernées avec l'enfant, s'il y a un entourage qui fait attention à certaines choses, comme la répétition des mots, Au quotidien, avec un amour, une affection, un enthousiasme, alors tu arrives à construire des petits-enfants qui parlent le japonais à 3-4 ans. Donc il s'est posé la question, est-ce que ça pourrait marcher pour la musique aussi ? Et voilà, et donc il a commencé à doucement, petit à petit, à expérimenter avec, et puis il a construit des écoles, et maintenant c'est reconnu partout dans le monde, il y a plein d'écoles Suzuki qui font en fait, qui dans leur philosophie, ils impliquent les parents. Donc ce que j'ai toujours remarqué, non seulement comme enfant, ado, mais aussi comme prof, c'est que la plupart du temps, c'est ben, moi je veux que mon fils ou ma fille elle apprend la musique, on le dépose quelque part une fois par semaine et puis on espère que ça va avancer. Alors c'est une façon de l'aborder, mais la question serait plutôt est-ce que on va cultiver un enthousiasme là-dedans ou est-ce que comme la plupart des adultes que j'enseigne aussi, on n'arriverait pas à construire une personne qui a fait de la musique pendant une période de sa vie, mais qui après ne l'a plus jamais touchée et qui revient vers moi à 40 ans, 50 ans pour dire « c'est quand même dommage que j'ai coupé, j'aimerais bien me replonger dedans ». Donc, en fait, ce que Suzuki et moi, parce que je ne suis pas entièrement méthode Suzuki, mais ce que moi j'aimerais bien transmettre aux enfants, c'est leur enthousiasme pour la musique. C'est un amour pour la beauté, parce qu'en fait la musique c'est une sorte de beauté. On s'ouvre à des sensations, c'est sensoriel. Et ça, c'est, au lieu de dire que je formerai des musiciens professionnels, je préfère plutôt dire que je forme des beaux êtres. Tu vois, donc j'aimerais que, au lieu d'exiger, de les demander, de pratiquer, parce que bien sûr, ça fait partie. Hein, on ne peut pas, dans la vie, devenir atteindre un certain niveau si on ne pratique pas. Mais si avant ce pratique, on a déjà installé un enthousiasme, alors la pratique, elle viendra toute seule. Hein, donc, là... Alors, j'essaie aussi d'impliquer les parents, donc le plus possible. Des fois, ils viennent aussi prendre des cours chez moi. C'est un peu la philosophie qu'il y a derrière.
Alors, je crois savoir qu'en plus de cette philosophie musicale, tu t'intéresses énormément aux pratiques corps, dans le développement des cours de chant, des cours de musique, où tu impliques des exercices respiratoires, des mouvements.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a inspiré à mettre justement ces pratiques ?
Ben, c'est pas quelque chose d'inconnu dans la musique, dans les conservatoires. De toute façon, en Belgique, je ne sais pas trop en France, mais on offre des cours de yoga, de respiration, parce que c'est vrai que, surtout pour les musiciens qui jouent pas mal d'heures par jour, ils risquent d'avoir les tendinites, des infections sur les tendons, sur les muscles, à force de toujours être dans la même position et de forcer le corps. Donc, comme chaque sportif, il faut chauffer le corps et le plus que tu bouges le corps, le mieux que c'est pour après pratiquer sur ton instrument. À côté de ça, j'ai toujours été un peu dans le yoga aussi, le yoga, la respiration, surtout comme chanteuse aussi, c'est important de savoir respirer. Donc voilà, ça fait un peu partie de mon démarche. Si je vois qu'un enfant vient vers moi, il est très stressé, alors je ferai plutôt des exercices corporels d'abord, ou... je parlerai avec lui, je lui donne des câlins, surtout quand il s'agit des tout petits enfants qui sont un peu stressés parce qu'ils ont quelque chose à prester. C'est ça le mot ? On dit ça ?
Présenter ?
Non, c'est prestation.
Prestation.
Oui, donc prester, non, ce verbe n'existe pas.
Non, c'est donc, pas grave. Voilà. C'est un nouveau verbe.
Ouais, j'en invente tout le temps. Non, mais donc, le plus important, c'est que la relaxation s'installe d'abord et puis le reste viendra aussi. Mais c'est quelque chose de sous-estimé. Il faut que je me rappelle à moi aussi, souvent, que parce qu'on est enthousiaste, donc on veut jouer, par exemple, le piano, on s'y jette tout de suite, mais sans chauffement, sans position correcte, par rapport à l'instrument, on aura des soucis bientôt. Donc oui, forcément, ça fait une grande... Allez, ça fait... C'est important.
Et sur tous les instruments, en fait, le changement
oui,
est nécessaire.
Oui, 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 oui. Parce que chaque instrument se limite sur certains mouvements. Hein, donc le violon, ça se pose sur l'épaule, tu as le cou qui le soutient, tu as le bras dans l'air qui joue avec l'arc. Hein, donc c'est une position, on bouge un petit peu pour bien sûr manipuler l'instrument, mais le dos il reste un peu bloqué. Alors c'est très important de devenir conscient des positions du corps quand tu es devant ton instrument, que d'être conscient du fait que ah oui, je suis très au niveau du dos, alors il faut que je détends ou la détention dans le corps,
détention c'est autre chose.
Voilà,
d'accord, donc ça c'est très important justement à observer puisque beaucoup de personnes peut-être l'ignorent ou sont dans des pratiques de chant ou de pratiques musicales en autodidacte à la maison et ne prennent pas forcément compte de ces échauffements là.
Oui, oui, mais ça, je pense que c'est un peu dans tout domaine. Hein, pour moi, personnellement, quand j'ai appris le yoga, ça m'a pris quand même un an ou moins, un an et demi, pour comprendre comment je devais vraiment respirer. Ce que j'ai appris avec le yoga aussi, c'est que j'avais plein de tensions dans mon corps dont j'étais pas consciente. Et ça m'a vraiment pris au moins 2 ans, globalement, la respiration, la détente du corps pour être consciente de comment on se pose. Et donc, oui, quand tu fais un instrument, mais n'importe, quand tu es derrière ton ordinateur ou tu es dans ta voiture, tu roules beaucoup dans la voiture, chaque jour, tu es des heures dans la voiture, alors là, tu vas avoir le même problème. Donc, c'est vraiment... En fait, ça se... Comment, c'est un peu plus large que juste la musique. C'est quelque chose qui m'a rendu consciente du fait qu'on n'est pas consciente de son corps dans la plupart des choses qu'on fait. Donc pour la musique, oui, si je peux l'introduire, je le fais. Par contre, les gens ne viennent pas chez moi pour faire le yoga. Je peux juste, comme chaque prof de musique va le faire, pose-toi bien, mets-toi droit, détends les épaules. Normalement, c'est ce qu'on a appris à l'école aussi, mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose... Que, puisque moi, j'étais loin de ça avant que j'ai commencé le yoga, et j'étais déjà musicien à ce moment-là. Et j'ai eu pas mal de tendinite dans ma vie. J'ai même eu un certain moment que j'ai dû recommencer en faisant du yoga sur piano.
D'accord.
Doucement et lentement parce que j'avais tellement de blocages.
Ça consiste en quoi le yoga sur piano ?
Bon, c'est juste de commencer. Donc, dès qu'on a un certain niveau sur un instrument, on préfère toujours accélérer, montrer ce qu'on peut faire. Sauf que des fois, il faut justement faire à l'envers, il faut recommencer du bas. Donc c'est pratiquer, mais très très lentement, comme un tai chi sur piano. Et c'est là que j'ai compris que, ah, quand je fais ça, c'est vrai que le poignet est moins détendu ou je suis moins crispée dans les épaules. Alors quand on est très lent, comme avec le tai chi, on peut comprendre qu'en fait... Il y a plein de tensions dans le corps qu'on ne fait pas forcément attention et que si on fait attention parce qu'on bouge très lentement, alors ça nous permet de les identifier quand on bouge plus vite après. Voilà, donc c'est un peu ça.
Alors pour revenir un petit peu à la dimension des cours dans l'éveil musical, tu parles assez souvent d'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme pour toi ?
L'enthousiasme pour moi... En fait, c'est une force naturelle qui est en nous depuis qu'on est né, qui malheureusement est souvent étouffée par la compétition et par la comparaison dans la vie, avec d'autres enfants, avec d'autres gens. Et là, ça prend un autre élan, ça commence à devenir une compétition au lieu d'un enthousiasme. Quand tu vois les enfants, ils sont des musiciens innés, quoi. Ils ont ça dans l'âme. Hein, ils adorent chanter, ils adorent taper, ils se demandent pas est-ce que je le fais bien ou pas, est-ce que je sais chanter, est-ce que j'ai une ouïe ou est-ce que j'ai le rythme. Non, ils le font. Et ils le font même souvent sans que maman ou papa devrait le montrer, quoi. C'est quelque chose de très naturel. Et c'est après qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que ça peut être coupé. Donc cet enthousiasme, pour moi, c'est le moteur de tout ce que je fais. D'abord, je nourris l'enthousiasme et après viendra la musique.
Et en plus de ça, je crois savoir que tu parles 3 langues. Donc peut-être c'est aussi plus facilité pour transmettre des cours en fonction du public qui peut être ici.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas spécifié, mais c'est vrai que je donne des cours en français, anglais, néerlandais. Ça permet bien sûr d'avoir un peu plus de public, mais aussi je m'adapte à la personne qui est devant moi. Je ne l'ai pas spécifié non plus. Je m'adapte vraiment, c'est ce qui est en fait l'idée des cours particuliers, mais je regarde vraiment qui est-ce que j'ai devant moi et comment je peux aborder les cours avec cette personne, n'importe si c'est un enfant ou un adulte. Donc, je trouve ça très important.
Oui. Voilà, ce qui est aussi important à identifier là, c'est qu'on a tendance à oublier, à peut-être le mettre de côté, mais les cours de musique, l'éveil musical, c'est avant tout aussi une thérapie pour les personnes qui sont en disharmonie avec elles-mêmes.
Oui.
Et là, c'est intéressant, justement, cette intervention de ta part où tu vas t'adapter à la personne que tu as en face de toi.
Oui. Oui.
Parce que ça va aider aussi l'autre dans l'apprentissage, mais dans son mieux-être finalement.
Oui, oui. Oui, l'idée que j'ai dans ma tête, c'est qu'en fait, au lieu de d'être le prof qui passe toujours l'information, tu aides la personne devant toi à devenir son propre prof.
Ah, super. Donc, on va essayer de synthétiser tout ça. Tes cours, tu les proposes où concrètement ?
Oui, donc chez moi, c'est dans le coin de Saint-Vincent-Rivedolt, c'est le zone 4640, et ça se passe dans un petit lieu dit Les Rocs, qui est au-dessus de Saint-Vincent-Rivedolt. C'est chez moi donc, mais je me déplace en cas que c'est vraiment nécessaire, pour les gens qui ont vraiment des soucis pour se déplacer, je peux me déplacer aussi, mais la plupart du temps, ça se passe chez moi.
Et ensuite, comment te contacter? Par quel biais? Est-ce que tu as une adresse mail, des coordonnées peut-être à transmettre aussi, ou des liens à proposer?
Oui, donc pour ceux qui sont pas sur Facebook, j'ai mon adresse mail qui est lebon.stéphanie avec F et pas PH.
On mettra en lien les adresses.
@outlook.com. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook donc sur le nom Le Bonheur Musical.
Voilà. Au vu de la situation actuelle, comment est-ce que tu procèdes pour proposer des cours? Est-ce qu'il y a une intervention peut-être? Est-ce que tu continues à proposer des cours ou...
Oui, voilà, sous quel biais? C'est vrai que donc, cette année, ça a été coupé plusieurs fois vu des confinements. Donc avant, je faisais déjà des cours par Internet pour les Belges parce que j'ai pas mal de Belges aussi dans mes élèves. Alors, j'ai commencé à proposer les cours par Internet. Au début, ça se passait surtout avec les ados et les adultes. Et c'était, bien sûr, je savais pas trop si ça allait pas bien fonctionner avec les petits. Par contre, j'ai quand même expérimenté un petit peu avec ceux qui voulaient vraiment continuer avec moi. Et donc, j'ai quelques élèves du bas âge, 4-5 ans, qui continuent avec des cours par Internet. Puisque ça dépend un peu de l'enfant, mais on n'a pas besoin de se toucher dans le cours. Donc, dès qu'il y a une bonne connexion, parce que ça, c'est par contre, c'est important qu'il y ait une bonne connexion, et que l'enfant est capable de se concentrer 15 minutes, 30 minutes, alors là, on peut continuer sur des cours par Internet, ce qui m'a sauvée cette année, oui.
Et je crois aussi savoir que tu es inscrite sur Animap, justement.
Oui, donc je me suis inscrite sur Animap justement pour pas discriminer les gens, donc tout le monde est bienvenu chez moi. C'est vrai que, oui, merci pour me rappeler parce que c'est important à dire. Oui.
Voilà, ben on arrive au terme de cette émission. Est-ce que tu as un mot pour la fin?
Non, juste que je suis très reconnaissante que vous m'avez reçue, que j'ai pu me présenter un petit peu dans cette émission. Merci beaucoup.
Merci infiniment. C'était Danielle pour l'émission Fenêtre sur soi, en compagnie de la talentueuse et merveilleuse Stéphanie Lebon. Un grand merci à toi. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook Cabinet Claude Duras et Fenêtre sur soi, et toujours sur rendez-vous au cabinet Claude Duras à l'Uzèche. Je vous souhaite du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et... et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins.
Mieux seulement parfois. J'ose espérer que ça suffit.